Urbaflore. L'émission du Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées. Urbaflore, la deuxième, à propos des espèces protégées. Quels interdits ? On en parle avec Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa.
Chargé de conservation au Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées. On va parler de ces espèces protégées par qui, comment, quels interdits, les sanctions, les recours. Mais d'abord, quelles espèces sont protégées ? C'est un bazar sans nom. Hein.
Alors effectivement, on peut voir ça comme quelque chose d'assez large, d'assez complexe. Mais finalement, si on se penche sur le sujet et qu'on sait où chercher, l'information, taper sur Internet, espèces protégées, Midi-Pyrénées.
On tombe que sur la faune, hein. J'ai essayé, la flore, ça passe au second plan.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, la flore aussi, bah, espèces protégées, flore. Après, c'est vrai que dans la réglementation, faune et flore sont ensemble. Mais il y a un paragraphe qui est dédié vraiment à la flore. Donc, on peut trouver l'ensemble des interdits. Et aussi la liste des espèces qui sont protégées. Mais il y a différents niveaux de protection, hein. Les interdits sont les mêmes, mais les protections sont nationales, régionales, pour le moment c'est régional Midi-Pyrénées, et il y a aussi des protections au niveau des départements, de un ou plusieurs départements.
Et ça se fait en fonction de la population des espèces ?
Les listes de protection, certaines, les protections nationales notamment, sont anciennes. Je crois que c'est dans les années 80, les protections régionales, c'est 2004. Et depuis, ces listes n'ont pas été revues. Elles ont été établies par des spécialistes, des naturalistes, en fonction de la rareté. C'est-à-dire que c'est comparé à un territoire, donc au territoire national ou régional. C'est un niveau de... Ouais, de localité aussi, donc la rareté, la localité, c'est-à-dire qu'elles sont à un endroit très précis, ou alors c'est des populations qui sont avec des petits effectifs, ça va dépendre aussi de la menace qui pèse sur cette espèce, voilà. Donc c'est tous ces critères-là qui justifient le fait qu'elles soient sur des listes. Après, ça peut être aussi lié à l'habitat, il suffit que l'habitat soit rare, et puis le fait de préserver une espèce permet aussi de préserver l'habitat, et puis les espèces qu'on voit, toutes les autres espèces, qui sont peut-être un petit peu plus communes, qu'on va trouver sur cet habitat.
Alors on imagine que depuis le début des années 80, ça fait quand même 40 ans, déjà les milieux ont évolué, les espèces ont évolué, il y a plein de choses qui ont évolué.
Oui, alors la répartition des espèces a un petit peu bougé, mais finalement pas tant que ça. Il y a des espèces où on s'est rendu compte que dans leur milieu naturel, il y avait une certaine rareté, mais il y a des habitats qu'on appelle secondaires. Par exemple, on va trouver ça sur des quais de gare ou sur des trottoirs. On va trouver des espèces protégées qui trouvent un espèce de refuge sur ces milieux secondaires. Et ces espèces restent protégées. Donc c'est un peu problématique parce que c'est lié souvent à des activités humaines. On va en trouver aussi sur des carrières qui sont exploitées, par exemple, ou qui ont fini d'être exploitées, et sur lesquelles souvent on va installer, par exemple, du photovoltaïque. On imagine que, bon, ben, on va pouvoir installer nos panneaux là, tranquille, c'était une carrière, c'était pas mal dégradé. Ben, il y a des petites plantes qui ont eu le temps de recoloniser l'espace, et il va falloir les prendre en compte, parce que c'est des espèces protégées, quel que soit l'habitat, finalement, qu'il soit primaire ou secondaire de l'espèce.
Quand on dit espèce protégée, on pense tout de suite à l'orchidée, par exemple. Mais en fait, l'orchidée, il s'avère qu'il y en a des centaines dans cette espèce. Et il y a certaines de ces sous-espèces qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Les espèces protégées, c'est compliqué de savoir qui est protégé, qui ne l'est pas.
Alors, j'ai ramené un petit peu de scientifique, ouais. Aussi, si tu me permets. Enfin, alors, les orchidées, c'est une famille de plantes. Et elle se décline ensuite en espèces. Ça aussi, on pourrait avoir peut-être une émission sur la classification, mais c'est un peu rébarbatif. Mais grosso modo, donc, il y a des familles, la famille des orchidées, comme la famille des rosacées, comme la famille des poacées, qui sont ensuite déclinées en genre et ensuite en espèces. L'espèce, on va dire, c'est l'identification la plus précise d'une plante, d'une chose, d'un animal, de nous. Nous, par exemple, c'est Homo sapiens. Homo, c'est le genre, et sapiens, c'est l'espèce. Et toutes les orchidées, pour revenir au sujet, ne sont pas protégées. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces. Ce sont les espèces les plus rares, les plus localisées, comme j'expliquais au début, qui vont être protégées. Là, il y en a une notamment qui s'appelle l'orchis lactée. Son petit nom latin, c'est Neotinea lactea, qui est une espèce plutôt méditerranéenne et qu'on va retrouver jusque sur le pourtour en fait, de la région toulousaine. Voilà, après vous avez d'autres orchidées protégées comme le Serapia sans cœur qu'on va trouver dans le territoire du Frontonnet. Donc dans le Tarn-et-Garonne, ça va jusque la Bastide Saint-Pierre où là justement, il y a des impacts avec des zones d'activité, hein, la zone Grand Sud logistique par exemple, a un certain nombre d'impacts sur des espèces protégées de faune mais également de flore comme le Serapia sans cœur. Donc toutes les orchidées ne sont pas protégées.
Il n'y a pas que ces espèces dans le genre, dans le...
Il n'y a pas que cette famille-là.
Voilà.
Enfin, dans cette famille, il y a quelques espèces qui sont protégées et d'autres qui ne le sont pas.
Et là, on parle seulement des orchidées et des espèces protégées. Donc on dit, oui, les espèces protégées, il y en a plein en fait. Et elles ne sont pas étiquetées. Il n'y a pas marqué « ne me cueillez pas » dessus.
Ouais, carrément. On va trouver des espèces protégées parmi les rosiers. Il y a un rosier qui est protégé. On va trouver des espèces protégées parmi des graminées, parmi des carex. On va trouver des espèces protégées. Il y a une jacinthe qui est protégée, sauvage. Il y a des tulipes aussi qui sont protégées, ça on le sait moins. Les tulipes qui, à une époque, on pense, ont été apportées par les Romains avec des pieds de vigne. Donc, on les retrouvait auparavant dans des vignes et des vergers. Aujourd'hui, bon, les pratiques agricoles ont évolué. Il y a eu des labours, il y a eu les herbicides qui ont détruit ces espèces-là, ces tulipes-là, qu'on va retrouver plus maintenant sur des bords de route et quelques vergers qui ont été entretenus de façon moins intensive.
Alors, on note que les bords de route sont quand même... plutôt pratique pour le développement de ces espèces protégées, tout comme les trottoirs ou comme les quais de gare, on l'a dit un peu avant. Alors, les espèces protégées, déjà, ne le sont pas partout, le sont d'un point de vue national ou alors régional ou alors départemental. Et puis, il y en a qui sont protégées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en cueillir, mais qu'on peut en cueillir, par exemple, pas plus d'une poignée.
Alors, oui, effectivement, la protection nationale, régionale ou départementale interdit la même chose. Elle interdit de cueillir, de prélever, même des graines, même des fleurs, même des feuilles, faire des tisanes, etc. C'est pas possible avec les espèces protégées. Ensuite, il y a des arrêtés de cueillette. Donc selon les départements, il y a l'impossibilité de cueillir plus de tant de pieds. Alors, en général, c'est une brassée, enfin voilà, pour pouvoir... conserver la ressource, puisque les fleurs c'est joli, mais ça sert aussi à la multiplication des plantes et à produire des graines. Et si on en prélève trop, il n'y a plus de graines et donc les populations ne se renouvellent pas.
Avant de parler de passer aux sanctions, aux recours, où est-ce qu'on peut retrouver peut-être la liste de ces espèces protégées en fonction du lieu où on habite?
J'ai envie de dire très simplement, moi c'est mon quotidien, je ne connais pas toutes les espèces protégées, mais quand je veux savoir si la plante est protégée ou pas, je vais sur le site de l'INPN. L'INPN, c'est l'Inventaire National du Patrimoine Naturel. Vous tapez le nom de la plante, si vous l'avez en latin, c'est mieux.
Bah déjà, si on l'a, c'est mieux.
C'est vrai. De toute façon, pour savoir si la plante est sur une liste, il vous faut connaître le nom de la plante. Au-delà de l'accompagnement par un naturaliste et un expert, quelqu'un qui s'y connaît, vous avez la possibilité de vous former vous-même avec une flore. Rien ne vous empêche de vous balader, comme vous vous baladeriez avec un livre qui va vous décrire les oiseaux que vous observez. Vous allez vous balader avec un petit livret de flore qui va avec des photos ou avec un certain nombre de critères. Je sais pas, ça va être le nombre de pétales, le nombre d'étamines, la hauteur de la tige, est-ce que les feuilles sont découpées, etc. Vous allez pouvoir aboutir petit à petit à un nom d'espèce. Une fois que vous avez ce nom d'espèce, vous allez sur Internet, vous tapez son nom plus INPN, comme je l'indiquais, et de suite vous allez tomber sur le site qui va vous donner tout un tas d'informations sur l'espèce en question, et notamment son statut réglementaire.
Il y en a beaucoup des espèces protégées. Alors là, on parle globalement de la région, là.
Alors, comme le conservatoire botanique intervient sur l'ex-région Midi-Pyrénées et la partie montagne des Pyrénées-Atlantiques, on a recensé, toute protection confondue, il me semble, aux alentours de 360 espèces.
Mmh. Ouais, donc il y a du boulot
ouais,
en termes de recensement. Vous avez parlé de plusieurs strates de protection. Vous avez dit toute protection confondue.
Oui, c'est par rapport aux protections nationales, régionales et départementales.
Ah oui. Il y a ça aussi.
C'est ça.
Les sanctions et les recours pour la suite de cette émission Urbaflore, l'émission du CBN, le Conservatoire Botanique National, Pyrénées et Midi-Pyrénées. Après la musique. Dans l'émission Urbaflore, l'émission du CBN, le Conservatoire Botanique National de Pyrénées et Midi-Pyrénées, avec Jérôme Garcia, on est en train de parler d'espèces protégées. Alors, les sanctions et les recours, maintenant, si on se fait attraper avec une orchidéus putucupetucupete.
Alors, effectivement, lorsqu'il y a un constat de dégradation, de destruction de ces espèces protégées, un des premiers points, c'est savoir est-ce que la personne est au courant ou pas qu'il y avait une espèce protégée.
Alors là, le nul n'est censé ignorer la loi.
Oui, mais il faut prouver ce qu'on appelle l'intentionnalité. C'est-à-dire, nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais si vous faites des travaux et que... Tout le monde ne connaît pas, en tout cas, toutes les plantes qu'il y a dans la nature et est loin de savoir que là, il allait avoir un impact sur une plante protégée. Donc, il y a aussi ce recul-là. Si la personne a été informée, sensibilisée et qu'elle fait quand même les travaux, il y a une intentionnalité et à ce moment-là, il y a une pénalité. Si par contre, il n'y a pas de connaissance de cet enjeu, et bien à ce moment-là, il y a une réflexion qui se pose de la part des services de l'État sur les pénalités. Et s'il n'y a pas intentionnalité, en général, ça va pas plus loin. Il y a éventuellement une demande de remise en état du site, un arrêt des travaux, une remise en état du site.
Il faut replanter.
Alors, faut pas replanter, mais on va dire que si on a mis des gravats, il faut les enlever pour essayer de retrouver l'habitat d'origine. Et puis, s'il y a une intentionnalité, c'est-à-dire si la personne, malgré ce qu'on lui a dit, fait quand même les travaux et détruit la plante protégée, à ce moment-là, il y a des amendes. Ça va au tribunal. Alors, je ne sais plus exactement si c'est tribunal administratif. C'est ça, tribunal administratif. Et ensuite, ça peut aller jusqu'au tribunal pénal. Et il y a également confiscation du matériel et une amende qui peut aller, je crois que c'est 15 000 euros.
Via ce programme Urbaflore, donc du Conservatoire Botanique National, qui vise à recenser, répertorier ces espèces protégées et à veiller à leur pleine santé, vous faites appel à un réseau d'associations, de bénévoles, où on va pouvoir se former un petit peu et puis vous envoyer des données. Ça participe à ce recensement et à cette protection des espèces protégées.
Oui, c'est ça. En fait, on s'appuie sur le réseau de bénévoles qui ont une très bonne connaissance en général du terrain, qui sont formés aussi avec des botanistes, qui les accompagnent aussi. Donc, à la fois Urbaflore apporte un cadre et une orientation dans cette veille sur ces populations de plantes protégées. Après, on ne fait pas vraiment, nous, en tout cas, de formation. On s'appuie vraiment sur le réseau et leurs compétences. En Tarn-et-Garonne, c'est la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne qui est active sur le territoire et qui va même jusque dans la grande aire urbaine de Cahors. Voilà.
Jérôme Garcia, vous êtes chargé de conservation au CBN, donc Conservatoire Botanique National. En quelques mots, votre quotidien, là, vous sillonnez les cours, les jardins, les cours d'eau, les parkings avec une petite loupe comme ça. Vous faites des prélèvements et vous jubilez dès que vous croisez une orchidée ou quelque chose.
Orchis ou Ophris.
Ouais, voilà.
Alors moi j'interviens plus particulièrement, je suis pas botaniste, j'interviens plus spécifiquement sur ces espèces-là visées par le programme Urbaflore, sur ces espèces protégées ou des espèces menacées. On pourra traiter de la question de qu'est-ce qu'une espèce menacée.
Prochaine émission.
Alors au quotidien, donc je fais des suivis de ces populations et je m'intéresse en particulier à la capacité qu'ont certaines de ces populations à retrouver ce qu'on appelle un état d'équilibre après une perturbation. C'est ce qu'on appelle la capacité de résilience. Grosso modo, ça veut dire que s'il y a eu une prairie où il y avait justement de l'orchis lacté qui a été labourée, simplement parce que l'exploitant ne savait pas qu'il y avait de l'orchis lacté, donc on lui a dit non, là stop. Cette prairie, c'était une prairie de fauche. Il faut la maintenir en prairie de fauche parce qu'il y a des enjeux avec une plante qui est rare. Il faut maintenir la prairie. L'exploitant a été OK, il savait pas. Donc il a dit OK, je conserve la prairie et je vais pas faire de blé dessus. Nous, on intervient derrière pour constater comment l'orchidée en question va pouvoir redémarrer. Et donc, on fait des suivis sur... là, pour la parcelle en question, je crois qu'on a un recul de 6 ans, où on voit comment, à partir de... Je sais pas, il y avait une quarantaine de pieds avant la perturbation. Donc, c'est bien d'avoir un état initial avant la dégradation. Ensuite, il y a eu la dégradation. Il y a eu que, je sais pas, on va dire 5 pieds. Et puis, on voit progressivement que les effectifs augmentent. Donc, c'est super encourageant. Ça veut dire aussi que la population est en capacité de se régénérer petit à petit. Par contre, s'il y avait des dégradations régulières, au bout d'un moment, la population elle disparaîtrait.
J'allais rester sur ce point positif. Alors, puisqu'on y est, vous ne prenez pas les petits coups de fusil dans le derrière quand vous allez voir un agriculteur en lui disant « Non, tu ne plantes pas du blé ?»
Alors...
Il y a des aides, peut-être ?
Non, mais c'est toujours des situations un peu particulières. C'est-à-dire que... on va pas voir forcément l'agriculteur, on va voir le propriétaire. le propriétaire n'est pas forcément agriculteur et l'agriculteur n'est pas forcément propriétaire. Dans le cas présent, la propriétaire ne connaissait même pas l'agriculteur et l'agriculteur ne savait pas qui était la propriétaire. C'est simplement que, historiquement, sur la parcelle, la propriétaire était contente de voir sa parcelle fauchée, elle ne savait pas trop par qui, et l'agriculteur était content de faucher la parcelle sans rien demander à personne. Donc, ce qui se passe, c'est que ça les a mis en relation, finalement, le fait de les avoir alertés sur... la propriétaire était au courant de la présence de la plante, mais elle ne savait pas qui contacter, quel agriculteur contacter pour dire les choses. Et il s'est trouvé qu'en faisant des recherches, elle a su qui intervenait, et c'est comme ça qu'on a pu contacter l'exploitant pour qu'il prenne en compte ces plantes-là. Donc, il n'y a pas forcé, il n'y a pas d'aide, en fait, pour le maintien de ces pratiques. Les agriculteurs, en général, lorsqu'il y a des enjeux sur la parcelle, bénéficient de ce qu'on appelle des mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC. Ça se fait en faveur de plantes qu'on appelle des plantes messicoles, par exemple. Plantes messicoles, c'est, tout le monde le connaît, c'est le bleuet, le coquelicot. Voilà, ça porte le nom de messicole, ça veut dire habitant des moissons. Et ces plantes-là sont aussi en régression à cause de pratiques agricoles plus intensives, herbicides, labour profond, tri des graines, etc. Et on va retrouver ces espèces-là uniquement sur les marges de certaines exploitations, de certains champs. Donc c'est important de pouvoir les maintenir avec des pratiques et des aides, parce que ces plantes-là elles font partie aussi d'un patrimoine. Elles permettent aussi d'attirer des pollinisateurs, des auxiliaires. C'est bon pour les abeilles, c'est bon pour les coccinelles. Voilà.
Le mois prochain dans Urbaflore, je n'ai aucune idée de ce dont on va parler, tellement de sujets à aborder. Jérôme Garcia, chargé de conservation au Conservatoire botanique national de Pyrénées, de Midi-Pyrénées. Cette émission Urbaflore est à retrouver en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Jérôme Garcia, merci beaucoup.
Merci aussi Lisa, à bientôt.